RMC.
Grand Plateau.
Christophe Cessieux.
Salut à tous, et si c'était lui le véritable successeur d'Eddy Merckx, Remco Evenepoel a en tout cas le même appétit insatiable de victoire que son glorieux aîné, le petit cannibale belge, qui deux semaines après avoir remporté le premier grand tour de sa carrière s'est donc paré d'arc-en-ciel hier en remportant la course des championnats du monde. Et quelle victoire, hein, 2 minutes 20 d'avance sur son premier dauphin, le français Christophe Laporte. Evenepoel superstar, alors jusqu'où ira-t-il? Va-t-il faire oublier les Van Aert, les Pogacar et autres Vingegaard? On se posera la question aujourd'hui dans Grand Plateau. Le jeune belge qui a donc éparpillé la concurrence mais qui a aussi bénéficié de l'aide involontaire des coureurs français qui auraient peut-être pu la jouer différemment dans le final et éviter ainsi d'offrir le titre sur un plateau à Evenepoel. Les Bleus ont-ils fait une erreur tactique dans cette course? Ce sera le thème de notre partie de manivelle. Malgré ce, les Français décrochent une très belle médaille d'argent grâce à Christophe Laporte, vainqueur du sprint du peloton, un peu par hasard. Il ne savait pas qu'il sprintait pour la deuxième place. C'est ça, quand il n'y a pas d'oreillette, on court à l'instant et certains en ont plus que d'autres. Julian Alaphilippe, quant à lui, s'est enfin débarrassé de la tunique irisée, sans regret. Va-t-il pour autant redevenir un coureur lambda? Lui qui est désormais le second d'Evenepoel, a-t-il encore un avenir au sein de l'équipe de Lefebvre? Là aussi, on en débattra. Enfin, on reviendra sur cet épisode consternant, qui a concerné Mathieu Van Der Poel dans la nuit de samedi à dimanche. Que s'est-il exactement passé dans l'hôtel où dormait le Néerlandais? On dira un peu plus tout à l'heure. Beaucoup de sujets et une équipe de choc pour les aborder. À commencer par notre druide, nous, Cyril Guimard. Salut Cyril.
Oui, salut à tous. Écoutez, bonne émission. Hein.
T'as bien dormi, toi, samedi dimanche. Tu t'es pas fait déranger par des jeunes filles dans ta chambre d'hôtel?
Non, c'est moi qui dérangeais ma femme régulièrement.
Ça y est, c'est reparti. Oh non, c'est pas possible.
Bah oui, elle dormait à côté de moi, à partir de 2h du matin.
Ah oui, c'est toi qui l'as réveillée pour aller voir les courses.
Non, parce que je regardais de mon lit. Hein.
D'accord. La Bretagne en force, et oui, il est là, aux côtés de Cyril, notre commentateur officiel du Tour de France sur RMC. C'est Pierre-Yves Leroux. Bonjour Monsieur Pilou, comment ça va?
Salut Christophe, salut Cyril. Ça va très très bien, moi non plus, il n'y a personne qui vient me déranger le soir, je peux dormir tranquille.
Tant mieux pour toi, c'est moins risqué. Ceux qui doutaient encore des énormes capacités de Remco Evenepoel en sont pour leurs frais. Le jeune Belge est entré dans la légende dimanche à Wollongong en Australie pour le plus grand bonheur de toute la Belgique et notamment du commentateur de la RTBF, Rodrigo Benquès.
Ces dernières années, les championnats du monde, ça nous a inspiré la mélancolie. Aujourd'hui, ça nous a inspiré la magie. Il est magique, ce bonhomme. Aux antipodes, l'arc-en-ciel est noir, jaune, rouge. 10 ans après Philippe Gilbert, Remco Evenepoel dans un one-man show. Fantastique, énorme. Remco Evenepoel à 22 ans est champion du monde. Il est sur le toit du monde du cyclisme. Le drapeau belge est à droite, est à gauche, est partout. Yes Remco, oui, tu l'as fait. Énorme Remco Evenepoel, champion du monde 2022. Un des grands moments, une des grandes pages de l'histoire du cyclisme belge.
Voilà, toute l'émotion de Rodrigo, la
One Man Show,
il est énorme. Il commente le tour juste à côté de nous, dans le camion à côté. Et c'est vrai que c'est un garçon, un enthousiasme total. C'est vrai que les Belges n'ont plus le seum, hein. C'est terminé. Ils sont servis pour des années avec ce titre, hein. Pierre-Yves.
Oui, ils auraient dû faire un et deux même.
En plus, ouais. Ils auraient dû faire un et deux.
Mais Wood, il pensait que c'était pas la médaille d'argent, peut-être, comme Laporte.
Ouais. C'est vrai que lui, la médaille d'argent, il en a ras-le-bol des deuxièmes places, Wood Van Aert. Donc, on va en reparler, évidemment. En tout cas, c'est vrai que la Belgique était favorite, messieurs. La Belgique, avec Remco et Van Aert, avait les deux meilleurs coureurs de la course. Et la Belgique a donc gagné. La logique, Cyril, a été respectée à la lettre en Australie. C'est pas toujours le cas, notamment sur les courses des championnats du monde, où c'est un peu différent des courses de l'année avec cette course par équipe nationale. Bah là, ça s'est bien passé pour une fois.
Oui, ça s'est bien passé pour les Belges, mais rappelons que ça s'est bien passé pour les Français ces deux dernières années également. Et c'est vrai que depuis quelques années, pratiquement, c'est le meilleur coureur, on va pas dire à tous les niveaux, mais le meilleur coureur du jour qui l'emporte. Et depuis 3 ans, eh bien, c'est Alaphilippe 2 et Remco 1, ça fait 3. Et pour le Lefebvre, ça fait 3-0.
Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Il fait trois maillots de champion du monde, enfin trois années consécutives dans, au sein de la formation Quick-Step, qui est la reine des courses d'un jour et qui entend bien le rester et qui en plus maintenant se met à gagner des courses par étapes. Pas facile de gagner quand même quand on a deux leaders de la trempe de Remco et de Van Aert. L'année dernière, on se souvient que ça avait provoqué une polémique. Hein. Evenepoel s'était fait un peu taper sur les doigts pour son individualisme. Il ne s'était pas vraiment mis au service de Van Aert. Là non plus, il ne s'est pas mis au service de Van Aert. Il s'est mis au sien et ça a plutôt bien marché, hein, Pierre-Yves.
Bah oui, alors cette fois-ci, c'était plus, ça passe mieux, on a envie de dire, puisqu'effectivement il y avait les deux cartes. Donc lui, il est resté dans son rôle, celui de, bah voilà, je sors dans la première, on voit si c'est la bonne et puis je tente ma chance tout seul. D'ailleurs, sur la ligne après l'arrivée de Van Aert, les deux garçons se sont retrouvés. Il y a eu un peu de rigolade. On a senti qu'il y avait pas de tension malgré tout. Moi, j'ai tendance à penser que s'il peut tout gagner, il gagnera tout. Et que voilà, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Même si on l'a vu pendant le Tour de France, on l'a assez dit, le meilleur coureur au monde, c'est Wout Van Aert. Maintenant, là, il va prendre encore plus de confiance, c'est sûr.
Ah oui, mais qui est le meilleur coureur de la planète? On fera les débats de bilan de saison dans quelques semaines, messieurs. Mais là, c'est vrai qu'Evenepoel, c'est quand même énorme. 15e. Alors, on n'a pas la même façon de compter, puisque toi, Pierre-Yves, tu ne comptes que les victoires et non pas les victoires dans le classement général. Ouais. Moi, j'en ai quand même compté 15 depuis le début de la saison. Rodrigo Benkens, mon ami belge, est d'accord avec moi. Donc voilà.
C'est une question de génération. Je pense.
Ça doit être une question de génération. Toi, tu supprimes des victoires.
Je ne suis pas d'accord avec ton calcul aussi. Parce que toi, tu dis que c'est le 4e coureur de l'histoire à remporter la même année un monument, un grand tour et un championnat du monde, c'est ça?
Ah, t'en as un autre? T'en as un 4e? T'en as un 5e?
Non, mais un garçon comme Binda qui gagne dans les années 30, je le mets pas dans la même catégorie.
D'accord,
tu vois.
Les années 30, ça comptait pas.
Non,
quoi.
C'est pas le même vélo. Mais je rêve. Attends, on parle de cyclisme moderne après-guerre, tu vois. Donc il y en a que deux. Il y a Merckx et Hinault. Et puis
c'est
maintenant, il y a
Evenepoel. J'ai jamais entendu parler de Binda, que Binda n'existe
Alberto
pas.
Alberto Binda, c'est un ami, j'ai eu au téléphone il y a 5 jours encore.
Mais Cyril s'en souvient, c'est le seul qui était né encore lorsque Binda gagnait les courses.
Non, mais moi je me souviens de Binda, je vais vous surprendre une fois de plus. Puisque quand j'ai commencé à courir en cadet, eh bien, nous avions des courroies de calepied qui s'appelaient Binda.
D'accord, ok, très bien. Très bien.
Eh oui.
Par rapport au grand champion italien d'avant-guerre.
Eh oui.
Eh ben voilà.
Et
ben
tu
voilà.
vois, la différence entre
moi,
toi et
Evenepoel.
Moi, je courais
avec un vélo Merckx.
Merckx n'a jamais fait de calepied.
Non, mais un vélo, il a fait des vélos quand même.
Oui, oui.
Toi, Cyril, t'as commencé à courir en cadet, alors que Evenepoel, lui, il a commencé le vélo il y a 5 ans. C'est fou ça quand même.
Oui, mais enfin, il faisait du sport avant, il faisait du football.
Ouais.
Eh oui, il était capitaine de l'équipe junior des Diables Rouges, je crois. Donc il courait le semi-marathon en 1 h et quelques minutes.
1 h 15,
c'est pas mal quand même.
C'est le marathon en 2h30.
Ce mec est assez rapide et assez fort dans tous les sports. Ça le classe au même niveau quand tu réussis. Donc on va mettre que Merckx et Hinault, puisque les autres, on s'en souvient pas. Ça le classe au même niveau qu'un Merckx et un Hinault. Déjà, Cyril, alors qu'il a que 22 ans, qu'il a jamais participé encore au Tour de France, où il faut encore un peu attendre avant de le mettre au niveau des deux grands, des deux géants du cyclisme, de l'histoire du cyclisme.
Alors j'ai presque envie de dire, pourquoi attendre? Vous savez, on a une nouvelle génération qui commence à gagner les grands tours à 20 ans, donc il faut décaler dans le temps. Si on décale dans le temps, si on fait le palmarès de Remco à 22 ans, mais qu'on fait aussi les palmarès de Hinault et de Merckx, vous verrez qu'aujourd'hui, il est un petit peu en avance, quoi. Mais bon, il faut... C'est un peu compliqué, j'ai presque envie de dire ça manque d'objectivité que de faire ce type de comparaison. Si on prend Evenepoel, il a été 9 mois sans faire de vélo, enfin, ou tout du moins 6 mois et 3 mois de reprise d'entraînement et de rééducation. Mais on s'aperçoit aussi, par exemple, que Bernard Hinault a été un an sans courir à l'âge de 19 ans, puisque à l'époque, il est parti à l'armée, mais il n'est pas allé au bataillon de Joinville. Il est parti là-bas du côté de Toulon, dans je ne sais plus quoi, mais il a été un an sans faire de vélo aussi. Imaginons que Hinault ne fasse pas son service militaire là-bas du côté de Toulon, et qu'il le fasse au bataillon de Joinville, il aurait peut-être gagné le tour avant 23 ans, quoi. Mmh. Donc c'est difficile de comparer tout cela. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Remco Evenepoel est au minimum, je dis bien au minimum, du niveau de Merckx et de Bernard Hinault.
Ah d'accord, ah, tu le mets au même niveau, donc au minimum. Fait, ouais. Oui, parce que en plus, Pierre-Yves, il y a quand même Remco Evenepoel est le dernier maillon d'une génération exceptionnelle. On en parle depuis plusieurs années ici même et lors de l'Intégral Tour.
Pourquoi le dernier?
Bah, parce que c'est le plus jeune par rapport à Bernal, par rapport à Pogacar, ouais, à Vingegaard et tous les autres, Van Aert, qui sont considérés comme une génération exceptionnelle. Et puis aussi, il arrive et il bat ces gars-là qui dominent le vélo et qui sont à peine plus âgés que lui.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Cyril. C'est vrai que on peut dire qu'il est du même niveau que Merckx et Hinault au même âge, parce que c'est vrai que c'est assez troublant de comparer les palmarès de ces garçons-là. Mais en revanche, il faut être prudent, effectivement, puisqu'on n'est pas à l'abri de la casse. Et moi, je pense à Egan Bernal, parce qu'on l'annonçait comme le garçon qui allait tout casser, qui allait remporter tous les Tours de France. Et puis, il y a cet accident. Donc, il faut rester prudent à ce niveau-là. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a une vraie comparaison et qu'effectivement, il est en train presque de mettre au placard tous ces garçons.
Il les a fait vieillir de 10 ans, là, les Pogacar et compagnie.
Mais en même temps, je me dis, bon, il va pas tout gagner, il va pas tout manger, toutes les courses, il va pas les gagner l'année prochaine. Et ça va être super parce qu'il va y avoir de la concurrence. Et on va retrouver on l'a depuis quelques années, des vraies bagarres avec les Pogacar, avec les Van Aert, avec les Van Der Poel. Je commence à mettre Alaphilippe un petit peu de côté et je m'inquiète un petit peu pour les Français. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir ce garçon arriver et puis il y en a d'autres qui vont venir.
Alors je voudrais juste ajouter un tout petit détail, mais qui a quand même son importance, c'est la façon dont il gagne. Ouais. Il ne gagne pas en sortant aux deux bornes ou aux trois bornes ou au sprint. J'ai rien contre les sprinters et pour cause. Mais il part à 30 bornes, à 40 bornes, à 50 bornes. Un peu comme l'avait fait d'ailleurs Pogacar en début de saison. Rappelez-vous,
Van Der Poel lors des années précédentes.
Voilà un coureur qui, quel que soit le moment où vous lui laissez prendre 50 mètres, il s'en va et il ne coince pas. Et vous n'allez pas le chercher, et les secondes tombent au fil des kilomètres, voilà.
Expliquer que ça avait été quand même très dur dans les deux derniers kilomètres, mais enfin, il avait d'avance que vous pouvez se permettre de.
Oui,
de,
puis ça lâche un peu dans la tête à un moment. Un moment où ça débranche un peu, et vous n'avez plus la pression du résultat puisqu'il est acquis, donc voilà.
Si on regarde les écarts, tu te souviens à Salanche, Hinault met une 10 à Barrancheli. Là, il est à plus de 2 minutes, 2 minutes 30. C'est quand même assez incroyable. Je crois qu'il faut remonter à 68 pour voir un écart comme ça. La force qu'il dégage encore dans les 2 kilomètres. Les derniers kilomètres, moi, je veux bien qu'il ait mal aux jambes dans les 2 derniers kilomètres. Mais quand on le voit pédaler.
Même avec ton vélo électrique, t'arrives pas à le suivre.
Hein, limite. Parce que j'ai deux batteries.
Des grosses batteries. Alors, Remco est-il aussi fort que les Pogacar et autres Vingegaard, Van Aert et Van Der Poel, et peut-il désormais viser le Tour de France? Écoutez ce qu'en disait Marc Madiot hier dans l'intégrale Sport sur RMC.
Sur un grand tour face à Pogacar, je demande à voir. Je pense qu'en montagne, en haute montagne et dans la répétition des grands cols, je pense que Pogacar est pour moi à la date d'aujourd'hui au-dessus. Sur les chronos, il y aura davantage match. Peut-être à l'avantage d'Evenepoel, mais en tous les cas, ça nous promet de grandes joutes dans les prochaines années, que ce soit sur le Giro, mais surtout sur le Tour de France et également sur certaines classiques.
Voilà, Marc qui attend de voir quand même pour savoir si Evenepoel sera du même niveau que Pogacar en montagne. Cyril, ton avis là-dessus? C'est vrai qu'il a remporté la Vuelta, il n'y avait pas le même plateau qu'il y avait au Tour de France.
Oui, c'est vrai. Ensuite, bon, il y a la façon dont il a maîtrisé la course qui est quand même très importante. En plus, en perdant quand même un certain nombre de ses équipiers, ce qui ne facilite pas la tâche. Mais bon, maintenant, quand il va arriver au départ du Tour, si c'est l'année prochaine, on en reparlera sans doute dans quelques instants, il aura un an de plus. Il aura l'expérience au moins d'avoir gagné déjà un grand tour. Ça veut dire qu'il sera un petit cran au-dessus. Marc a raison d'avoir de mettre une petite marge. Moi, je suis pas certain. Je suis pas certain actuellement que Evenepoel est véritablement à son poids de grande forme. qu'il soit affûté, oui, mais moi je le trouve pas très affûté et je reste persuadé que il peut encore de façon tout à fait naturelle et tout à fait normale s'affûter de 1 ou 2 kilos quand vous savez l'importance du poids dans un col qui monte pendant 40 minutes, vous voyez la différence au sommet quoi.
Et puis un élément Christophe, c'est bien gentil de comparer avec Pogacar, mais c'est pas Pogacar qui a gagné le tour, oui, c'est Vingegaard. Et ça veut dire une équipe. Et
oui, donc mais tu peut-être... lui as pas compté sa victoire, toi, Vingegaard.
Non, mais ça veut dire aussi peut-être que il va falloir construire quelque chose du côté de la Quick Step, qui est pas forcément une habitude. On va chercher beaucoup les classiques. Ouais. Ça va être intéressant aussi.
Exactement. Et on suivra ça avec intérêt. A priori, ce sera pas pour 2023, nous disait Patrick Lefebvre il y a quelques jours, mais pour 2024, on va voir. Parce que la Belgique désormais a un nouveau champion. Il va y avoir une pression terrible hein, aussi sur les épaules de Remco, ça avait été le cas pour Boonen. Vous vous rappelez de Boonen qui était quand même la star aussi attendue par toute la Belgique et qui lui s'est un peu perdu justement après ses premières victoires notamment dans Paris-Roubaix. Est-ce que vous pensez que la même menace plane au-dessus de la tête de Remco ou alors que...
Toujours.
Ouais.
Toujours. C'est dur aujourd'hui d'être, d'être au sommet. Il y a une pression énorme que connaissait peut-être c'était une pression différente il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est du quotidien, c'est les réseaux sociaux, c'est le résultat. Il faut supporter ça aussi, on en a vu d'autres avoir du mal, mais lui j'ai l'impression quand même qu'il est très très costaud dans sa tête, donc on va voir, mais je pense qu'il est capable de résister à ça. Oui.
Eh bien nous verrons ça,
Pour revenir à Boonen, le problème de Boonen c'est qu'il a quitté la Belgique pour aller habiter à Monaco, et lorsqu'il est arrivé à Monaco, on respirait pas le même air là-bas, donc les parcours n'étaient pas les mêmes. Et puis il a le nerf de la tête qui a un peu pété. Mais
ça avait commencé en Belgique déjà.
Déjà en Belgique, il y avait une forme de fragilité quand même qu'on ne ressent pas chez Van der Poel. Au contraire, on sent qu'il a plutôt un entourage relativement sain entre guillemets. Lefebvre, on sait ce qu'il est capable de faire sur le plan du management. Et c'est pas le plus maladroit, même si quelquefois il peut avoir une phrase maladroite, mais sur le management, on peut pas lui reprocher grand-chose. On peut dire ah oui, mais sur le plan humain, il est pas extraordinaire. Quand on fait du management à ce niveau-là, est-ce que c'est l'humain qui doit primer sur le rationnel ? Ça doit être un mélange très subtil entre les deux. Ouais. Mais moi, j'ai pas d'appréhension.
T'as pas d'inquiétude
mais j'en ai jamais eu depuis le départ, je vous ferai remarquer.
Oui, non, mais c'est vrai que tu nous parles de...
Attention, Cyril.
Vas-y.
Quoi, tu vas sortir un dossier ?
J'ai pas les sons, mais et je suis complètement d'accord avec toi. De temps en temps, comme tu l'avais fait pour Julien Alaphilippe dans ses jeunes années, tu trouvais qu'il y avait des choses à améliorer.
Et notamment
les descentes. Ouais. Voilà, et notamment et ce qui est normal, puisqu'il a commencé le vélo il y a 5 ans.
Oui, non, mais qu'il était très maladroit dans les descentes, c'était son tendon d'Achille. Vous remarquerez que depuis qu'il a fait ce petit plongeon là sur le Tour de Lombardie, il a dû énormément travailler parce que ses trajectoires aujourd'hui sont très proches de la perfection, un petit peu comme Julien Alaphilippe en étant un tout petit peu moins vite, mais il descend suffisamment bien aujourd'hui pour que personne ne puisse lui prendre du temps. Et puis comme il a de la force dans les reins, il peut toujours laisser un petit décalage dans un petit trou dans chaque virage, il n'a pas de problème pour revenir. Mais on a remarqué que sur ce plan là il a effacé ce handicap aujourd'hui.
Lefebvre, donc évidemment ravi pour son poulain, le maillot arc-en-ciel, on le disait, reste à la Quick Step pour une troisième année consécutive. Remco succède à Julien Alaphilippe, Julien qui est venu immédiatement féliciter son jeune équipier et qui ensuite n'a pas tari d'éloge au téléphone d'Arnaud Souk. On l'écoute.
Ouais, c'est un sacré coureur. Je pense que de toute façon, c'est un des coureurs les plus talentueux et les plus forts de notre génération. Il suffit pas de regarder la saison exceptionnelle qu'il a fait cette année. Depuis le début de sa carrière, il est incroyable. J'ai eu la chance de le côtoyer là pendant la Vuelta, avant de quitter la Vuelta sur ma chute. Il était confiant, il était fort comme jamais je l'avais vu. Et voilà, il a gagné Liège aussi en début de saison. Enfin, il vient de faire une saison incroyable et gagner comme ça, ça tombe pas du ciel. C'est vraiment un coureur hors norme, donc victoire largement méritée.
Victoire largement méritée, dit Julien. Ravi, on le comprend. Maintenant, va-t-il le rester longtemps ? Ravi, hier, on a un peu l'impression, enfin moi, j'ai eu cette impression d'avoir vécu une sorte de passage de relais, ouais. En tout cas au sein du Wolfpack, hein, de cette équipe Quick-Step. Le leader, c'est désormais clairement Remco. En plus, il présente l'avantage d'être belge, alors que Julien est français. Est-ce que Julien va s'y retrouver là-dedans ? Pierre-Yves, qu'est-ce que tu en penses ? Et je demanderai ensuite son avis à Cyril.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai le sentiment qu'il y a une passation de pouvoir. Et puis j'ai en souvenir, moi, puisque j'étais là-bas au championnat de France, de ce qui s'est passé quand même, de la décision de pas amener Julien. Alors même si c'était peut-être une très bonne décision, on a parlé du management de Patrick Lefebvre il y a quelques instants. Je pense que quand même il l'a eu un petit peu en travers de la gorge. Il y avait aussi un garçon à côté de lui qui s'appelle Florian Sénéchal, qui n'était pas non plus dans la sélection. C'est toujours un peu compliqué pour les Français du côté de la Quick-Step. Peut-être qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions et peser le pour et le contre. Est-ce qu'on est mieux à la Quick-Step dans une équipe très solide avec peut-être la star du moment, ou on a envie de briller un peu de façon plus individuelle dans une autre équipe ? Ça va être le calcul à faire très certainement pour Julien.
Cyril, l'avenir de Julien est-il toujours au sein de la Quick-Step ?
Ouais, question dont la réponse n'est pas évidente. D'abord parce que, un, on la connaît pas. Tout dépendra. Evenepoel est passé dans le star system aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une icône. Donc c'est sur lui que toutes les lumières et tous les projecteurs seront dirigés. Et à ce petit jeu-là, je ne suis pas certain que Julien Alaphilippe y trouve son compte. Au niveau des victoires en fonction des différentes courses, là je me fais pas de soucis. Mais sur le plan de la reconnaissance, jusqu'à aujourd'hui, c'était Julien qui était l'icône de cette équipe. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas puisque la passation de pouvoir, elle a été, même symboliquement, le maillot de champion du monde est passé de sur les épaules de Julien, sur les épaules de Remco. Ça, c'est une réalité.
Et puis il y a eu les déclats de Patrick Lefebvre encore avant la Vuelta.
Il dit à
Julien Alaphilippe, enfin il le dit pas à lui, mais il fait comprendre, je le paye pas pour être champion du monde. C'était quand même des déclats qui étaient fortes. Hein.
Ouais, mais il avait raison puisqu'il préférait que ce soit
Remco qui se prépare. Là, il le payait pour devenir champion du monde.
Puis on préfère que ce soit un Belge qui gagne le Tour des Flandres quand un Français peut le gagner aussi.
Ouais, ça, on se souvient effectivement de cette histoire.
Bon, on va pas ressortir tous ces dossiers.
On a un peu le seum là aujourd'hui.
Ils nous ont transféré le seum, ces Belges. Julien, qui a perdu son maillot arc-en-ciel, mais la France est consolée avec la très belle deuxième place et la médaille d'argent de Christophe Laporte, le seul vainqueur d'étape français du dernier tour qui confirme son changement de statut. Hier, il était le plus fort des sprinteurs, en tous les cas le plus malin, même s'il ne savait pas vraiment qu'il sprintait pour la deuxième place. On l'écoute.
Non, je ne savais pas. Ça a été un dernier kilomètre un peu fou. On a repris beaucoup de monde et on a passé les derniers groupes, je pense, à 300 mètres de la ligne. Donc, je savais que j'arrivais pour une place, mais je savais pas que j'arrivais pour la médaille d'argent. Et quand j'ai passé la ligne, j'ai vu seulement Remco. Et j'ai vu personne d'autre et on m'a dit que j'étais deuxième. Donc, c'était la bonne surprise.
Bonne surprise pour Christophe Laporte. Ça change tout finalement de courir sans les oreillettes. Alors, ça, je sais que j'ai mis un petit euro.
T'as mis une pièce dans la machine.
C'est parti là. C'est parti. Allez, Cyril, tu nous fais un petit tunnel d'un quart d'heure là-dessus. Non, mais c'est vrai. L'instinct des coureurs, certains l'ont pas. Et ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Bah, Laporte, il s'est dit autant sprinter. Je sais pas si je serai deuxième ou dixième, mais en tous les cas, il a été plus malin.
Oui, alors, bon, effectivement, je peux faire un tunnel d'un quart d'heure.
Je vais
faire très court. D'abord, cette deuxième place est miraculeuse.
D'accord.
Elle était totalement inespérée. Qui, à 2 kilomètres de l'arrivée, peut dire que le peloton va revenir sur le groupe intercalé, sur les rescapés de l'échappée où était Evenepoel. Ils étaient à peu près 1 minute 30, quelque chose comme ça. Et le peloton était à 2 minutes 30. Ça, on est aux 3 km. Mmh. Et le contre s'arrête.
Ah ouais, ils s'observent, ils se regardent.
Ils se regardent, ils savent pas qui. Et puis quand ils se retournent aux 350 mètres, il y a le peloton qui est emmené à vive allure pour le sprint du peloton. Et un sprint du peloton, il faut le dire objectivement, qui était pas un sprint pour une deuxième place, qui était pas un sprint pour une victoire. Et les plus motivés pour faire ce sprint, ça a été les Français qui ont tout simplement
Matthews aussi, l'Australien qui
oui,
était bah dans
oui
le
parce que lui il est en Australie, il est ouais, chez lui quoi. Ouais. Mais bon, il bon, est pas
Sagan, le... Sagan qui est dans le coup, Van Aert qui est pas loin, il y avait quand même du beau monde.
Oui, mais quand vous regardez le sprint, c'est pas un sprint pour une première
non,
place.
C'est
même pas un sprint pour, c'est le sprint du peloton, ils savent pas pour quelle place ils arrivent. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Van Aert, de
ça,
faire
non
mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Van Aert de faire quatrième ou cinquième du sprint du peloton.
Deuxième, on est. Alors hier on avait ce débat. Est-ce que deuxième d'un championnat du monde, ça a une quelconque importance? C'est quand même plus important que de faire deuxième d'une grande classique. C'est pas aussi important que de faire deuxième des Jeux Olympiques, mais il y a quand même une hiérarchie et c'est intéressant d'aller chercher des médailles. Et de
oui, c'est intéressant d'aller chercher une deuxième place quand tu sais que tu arrives pour la deuxième place.
Oui.
Quand tu penses, parce que logiquement, comme il n'y a pas les oreillettes, ils savent pas s'il y a 8 coureurs devant, 12 ou 15, puisque le groupe qui est parti, c'était 25 ou 30 coureurs. Donc ils en ont rebecté de temps en temps dans la bosse, ils en croisaient parce que soit ils avaient fait leur boulot, soit il y avait le joint de culasse qui avait sauté. Mais est-ce que vous êtes capable de compter tous les coureurs que vous rejoignez et avec les noms, faut regarder les dossards parce que bon, parce qu'on n'a pas les mêmes maillots de marque, en plus on a des maillots nationaux, donc c'est une autre vision. Et là, vous pouvez pas savoir s'il reste 5 coureurs devant, 3 coureurs ou s'il y en a qu'un.
Donc, finalement, c'est une bêtise d'avoir enlevé ses oreillettes, Cyril. Pour la lisibilité de la course, finalement, il faudrait les remettre, non?
Ah, ne dis surtout pas ça!
Bah, faudrait le dire peut-être pour les Français, non?
Je vais vous dire, vous savez pourquoi on va chercher la médaille d'argent? Parce qu'il n'y a pas les oreillettes.
D'accord.
Imaginons un seul instant qu'il y a les oreillettes. Alors, je ne parle même pas de la première partie de la course, qui aurait été totalement différente, puisque vous savez qu'entre, à partir du moment où vous avez les oreillettes, on fait un peu de la PlayStation derrière. Bon. Là, imaginez qu'à 3 km de l'arrivée, on puisse dire aux coureurs intercalés, puisque Evenepoel était hors combat, pas hors combat pour la course, mais il comptait plus. Et qu'on commence à dire, mais attendez les gars, ça rentre. Oui. Et bien ce groupe-là, au lieu de se relever à 1,5 km, il se relève qu'aux 800 mètres ou aux 700 mètres. Et donc ce groupe, il va chercher les deux médailles qui restent. Et donc derrière, vous arrivez pour la 9e place. Mais demandez à un coureur s'il savait qu'il arrivait pour la 9e place si on n'allait pas chercher le groupe. Ouais. Et demandez à ces coureurs, à 1,5 km, s'ils savent qu'ils vont revenir. Ils les voient pas.
Ouais. Après, la réalisation était tellement mauvaise que même avec les oreillettes, je suis pas sûr que les coureurs aient su ce qui se passait exactement.
Il faut pas critiquer les réalisateurs, Christophe. On le fait jamais, on va pas commencer aujourd'hui.
Non, mais il faut surtout pas le faire parce que grâce à eux, on va faire deux aussi.
Vous vous souvenez qui a fini 2e l'année dernière du championnat du monde?
Aïe.
Bah, personne s'en souvient,
Van Barle?
Bien, Cyril.
Bien Van Barle.
Ouais, il y en a un qui suit, quoi.
Ouais. Mais bon, en tout cas, pour Arnaud Souk, c'est super important de terminer 2e. Donc, c'est pour ça que je l'ai envoyé en vacances cette semaine. Les oreillettes, qui, en revanche, auraient pu servir à l'équipe de France dans le final, lorsqu'ils ont emmené Remco sur un plateau vers la victoire. Bref, les Français ont-ils fait une erreur tactique? C'est le thème de notre partie de manivelle.
RMC. La partie de manivelle.
Alors messieurs, c'est vrai que dans un premier temps, la tactique de l'équipe de France a tenu toutes ses promesses. Les Français ont dynamité la course de mouvement, mais donc à 50 km de l'arrivée, ils ont peut-être fait une erreur tactique en continuant à rouler et à creuser l'écart avec le peloton, alors qu'il y avait Evenepoel sur le porte-bagages, un garçon considéré à juste titre comme le meilleur rouleur du peloton. Est-ce qu'ils ont fait le jeu de Remco? Cyril, ton avis? Alors, pas un tunnel, parce qu'il nous reste que quelques minutes seulement.
Ben, je ne vais pas faire un tunnel. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas rouler et condamner ce qui aurait été dans la logique de la course et de refaire ce que j'appelle moi 1.0 et on refait un nouveau départ de course. Sauf que là, vous avez toujours Evenepoel, parce que même si ça rentre, compte tenu des chevaux qu'il avait sur ce championnat du monde, il restait quand même l'homme le plus fort. Mais vous récupériez Pogacar, vous récupériez Wout van Aert également, Matthews. C'est-à-dire que la course, c'est pas sûr qu'on maîtrise le final si tout se regroupe. Est-ce qu'on a les coureurs ? Parce que visiblement, Julien n'était pas à 100%. Mmh. C'est ce qui fait d'ailleurs que Vauclair a lancé un petit peu. Bon, on joue le tout pour le tout, puis on verra bien qu'est-ce qui reste dans le final. À la sortie. Je dis que l'ensemble des erreurs des Françaises, plus les oreillettes, plus la télé, puisqu'on va tout mettre, et ben, finalement, la stratégie mise en place n'était dans aucune logique. Et comme elle était dans aucune logique, on va faire deux. Mmh. Alors qu'on n'a plus personne, on n'existe plus dans le final. Mais vous savez que quand on fait de grosses erreurs de course, quelquefois, eh bien, la roue tourne. Et, voilà. Et moi, je me souviens d'un tour
de
Lombardie.
C'est pas le nom d'une association, ça, si me dit quelque chose.
Non, mais je vais vous rappeler en 15 secondes comment Bernard Hinault gagne.
J'aime bien tes 15 secondes à toi, c'est souvent 15 minutes. Ouais.
Non, mais si tu me coupes la parole, effectivement. Non, sur un tour de Lombardie, dans la montée de l'écho avec Moser, ils se font un mano-mano. À la fin, le blaireau, il veut pas plier par rapport à Moser. Il sort et il s'en va. Et le peloton s'arrête et il se retrouve avec une 30. Et là, on est à 160 bornes de l'arrivée. Et là, moi, je réussis à passer. Et je dis à Bernard, tu sais, Bernard, il reste 160 bornes. Et à ce moment-là, il y a un contre qui sort dans lequel on a un Français, un équipier, Bernard Bécasse. Et là, je lui dis, si, insiste maintenant. Et puis, on se rend compte d'une chose. D'un seul coup, me revient l'idée qu'il y a une guerre entre Moser et Saroni pour un classement interne italien, genre Coupe de France. Et d'un seul coup, Saroni, qui avait viré la moitié de ses équipiers, Moser, il fait, ben, roule. Ah. Et d'un seul coup, tout s'est arrêté. L'échappée va au bout, alors qu'au départ, c'est la plus grosse connerie qui existe.
Mais oui, c'est vrai que la tactique et les circonstances de course font de temps
ça
en temps.
Ça peut pas être toujours du tableau noir, quoi, effectivement.
Et oui, c'est ce que disait d'ailleurs Thomas Vauclair. Thomas Vauclair qui expliquait d'ailleurs que ce cas de figure, avec Evenepoel dans un groupe emmené par des Français, avait été évoqué au briefing et qu'il était convenu à ce moment-là que Sénéchal et les autres s'arrêtent de rouler, ce qu'ils n'ont pas fait.
C'est un autre problème, par contre.
Ah oui.
Bah, c'est embêtant quand même.
Oui, alors là, tu veux dire quoi là par là ? Parce que je sais que je connais ton mauvais esprit. Tu veux dire que Sénéchal, coéquipier de Remco...
Je n'ai rien dit. Alors je n'ai absolument rien dit.
Je sens à ton petit
ça m'embête toujours. Parce que s'il y a une consigne qui est donnée et qu'elle n'est pas respectée, c'est qu'il y a d'autres intérêts, non ?
Ouais. Non, là je ne suis pas le barde.
Mais pas totalement non plus, Cyril.
Je ne le suis pas parce que quand vous êtes dans un groupe comme ça... Il y a prendre un relais et prendre un relais. Il y a prendre un relais, mettre deux dents de plus et rouler 5-7 à l'heure plus vite, ou tourner légèrement et prendre des relais sans trop les appuyer pour éviter que ça ressorte de droite ou de gauche. Parce que quand ça a commencé à sortir, ça a été un coup Bardet, un coup Paul, un coup Pierre pour rentrer sur les coups. À la sortie, Bardet, il a laissé une partie de son jus. C'est-à-dire que il vaut mieux le ralentir, faire en sorte que de dire on roule pas, on casse les coups parce que ça sort. Donc le fait, c'est pas parce que vous vous retrouvez en tête et que vous prenez un relais que vous donnez une impulsion au groupe. Oui.
De toute façon, on a vu des images qui étaient surprenantes hier avec des garçons qui roulaient alors qu'ils avaient des coéquipiers devant. Et ça, je pense que c'est les oreillettes qui ont fait beaucoup pour ça parce que de temps en temps, ils étaient un peu perdus avec les informations et la situation.
Ils avaient qu'à apprendre à courir sans les oreillettes.
Aller voir Monsieur Guimard, il leur apprendra à courir sans les oreillettes.
Moi, j'ai jamais eu de problème. Il n'y avait pas d'oreillettes à l'époque.
Il n'y avait même pas de radio, il n'y avait pas de TSF, rien du tout à l'époque.
Et on faisait très peu. Ouais. Très peu de
en revanche, cours. jamais je n'ai pensé que Sénéchal avait couru pour Evenepoel, contrairement à ce que tu viens de dire.
Bon, alors pour la petite plaisanterie, j'ai toujours dit que les deux titres de Julien étaient liés en grande partie à l'équipe belge. L'équipe belge nous a fait un cadeau. Si cette année on a renvoyé l'ascenseur, on l'a quand même renvoyé dans l'équipe d'Alaphilippe, quoi.
Ouais, c'est vrai. Très bien, ok, il l'a dit sans le dire. Des mondiaux qui, en revanche, ont tourné vinaigre pour Mathieu Van Der Poel, contraint à l'abandon dès le 30e kilomètre. Il faut dire, Pierre-Yves, que Mathieu a connu une nuit très agité qui s'est terminé au poste. Raconte-nous tout ça. Que s'est-il passé pour Mathieu Van Der Poel?
Alors, Christophe, je précise quand même que la distance et puis le décalage horaire m'ont empêché de vivre la scène de mes propres yeux. J'aurais bien voulu parce que c'était quand même cocasse. Mais alors, d'après les témoignages et puis les constatations de la police australienne, dans la nuit donc de samedi à dimanche, donc quelques heures avant le championnat du monde, Mathieu Van Der Poel a donc été importuné par des résidents de l'hôtel où dormait la sélection néerlandaise. Il s'est endormi à 21h selon le directeur sportif de son équipe, mais jusqu'à tard, il y avait beaucoup de bruit dans les couloirs. Et par trois fois, on aurait frappé à la porte de sa chambre. La troisième fois, Mathieu Van Der Poel s'est levé et aurait molesté deux jeunes filles à 22h40, très précisément selon la police. Il aurait alors poussé les deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude. Ce sont les termes de la police. Le petit-fils de Poulidor a été emmené au poste pour s'expliquer. Il s'est couché à 4h. Il a malgré tout pris le départ de la course, mais s'est arrêté au bout de 30 km, totalement hors sujet. Ce lundi, il a été autorisé à rentrer en Europe après avoir plaidé coupable devant la justice australienne d'agression. Il a été condamné à payer des amendes de 1 500 $ australiens, environ 1010 euros au total, ce qui fait quand même cher la petite égratignure au coude.
Oui, surtout que c'est sur... plus que l'amende, c'est évidemment d'avoir fait un voyage en Australie pour aller au poste et pour faire une course de 10 km. Ça, c'est vrai que ça doit être frustrant. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Il s'en sort mieux que Federer.
Pourquoi Federer?
Djokovic. Ah, Djokovic. Oui. On parle tellement de Federer en ce moment.
La maîtrise du tennis, ta maîtrise m'interpelle, Cyril. Juste un petit mot. Oui, alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Cyril, a priori, il s'est quand même énervé et on peut comprendre qu'il soit énervé quand tu prépares une course. A priori aussi, il ne dormait pas à l'étage de la sélection néerlandaise, mais quelques étages au-dessus avec sa petite amie. En tous les cas, ce n'est pas la saison de Mathieu Van Der Poel, qui doit avoir hâte que cette saison 2022 se termine pour passer à autre chose quand même.
Oui, ça a une saison très noire aussi, un peu sous des formes différentes que celle de Julien. Maintenant, l'épisode qu'il vient de vivre va rester vraisemblablement une anecdote. Puis j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, ces gamines, à cette heure-là, quoi, à frapper aux portes.
Des bêtises d'adolescents. Qui l'a pas fait, hein. Moi je l'ai fait. À sonner chez les voisins tout. Ça, attends, c'est pas non
on
plus.
On n'a pas fini au poste.
Je me suis pas fait casser la tête par un Hollandais.
Donc, pour Van Der Poel, faudra qu'il se refasse une belle santé cet hiver pour revenir à son meilleur niveau. Ouais. Mais bon, je pense que dans quelques temps, il va reprendre son activité favorite, les cyclocross, et retrouver de vraies sensations.
On l'espère et on lui souhaite. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Pierre-Yves pour donc ce débriefing des championnats du monde. Il reste encore quelques belles courses à disputer d'ici la fin de la saison, avec notamment le Tour de Lombardie dans quelques jours. Merci beaucoup, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Bonne semaine les gars, allez bien rouler. Ciao, ciao.
À bientôt.
RMC Grand Plateau.